J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Je regardais le ciel comme je le fais toujours, comme je l'ai toujours fait. Je regardais le ciel et je regardais encore la campagne qui descend doucement et s'éloigne de chez nous, la route qui disparaît au détour du bois, là-bas. Je regardais. C'était le soir et c'est toujours le soir que je regarde. Toujours le soir que je m'attarde sur le pas de la porte et que je regarde. J'étais là, debout comme je le suis toujours, comme je l'ai toujours été. J'imagine cela. J'étais là, debout, et j'attendais que la pluie vienne, qu'elle tombe sur la campagne, les champs et les bois et vous apaise. J'attendais. Est-ce que je n'ai pas toujours attendu? Et dans ma tête, encore, je pensais cela. Est-ce que je n'ai pas toujours attendu? Cela me fit sourire de me voir ainsi. Je regardais la route et je songeais aussi, comme j'y songe souvent, le soir, lorsque je suis sur le pas de la porte et que j'attends que la pluie vienne. Je songeais encore aux années que nous avions vécues là, toutes ces années ainsi. Nous, vous et moi, toutes les saintes, comme nous sommes toujours et comme nous avons toujours été, je songeais à cela, toutes ces années que nous avions vécues et que nous avions perdues, car nous les avons perdues, toutes ces années que nous avions passées à l'attendre. Celui-là, le jeune frère, depuis qu'il était parti, s'était enfui, nous avait abandonné depuis que son père l'avait chassé.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Jean-Luc Lagarce est mort du sida à 38 ans en 1995. Il a laissé des dizaines de pièces, un formidable journal et quelques textes percutants, tous édités au solitaire intempestif. Dernier remords avant l'oubli, musical, Le pays lointain, Juste la fin du monde, adapté récemment au cinéma par Xavier Dolan, sont ses pièces les plus connues et les plus jouées, tout comme J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, qui raconte l'attente sans fin de cinq femmes, la plus vieille, la mère et les trois filles, depuis que le jeune fils a quitté la maison des années auparavant, chassé par le père. Cinq récits, cinq partitions musicales qui forment une seule voix bouleversante. Sur la scène du Vieux Colombier jusqu'au 4 mars, Suliane Brahim y interprète la fille aînée, celle qui, parvenue au mi-temps de sa vie, appartient déjà au clan des plus vieilles, celle pour qui la fin de l'attente, elle le comprend, ne changera plus rien. Elle est le pivot central de ce cœur de femme flouée, blessée et pourtant encore capable de rire d'elle-même. Sous la direction de Chloé Dabert, Suliane Brahim, que l'on a plus souvent vue aux Français dans des rôles de jeune première, trouve ici aux côtés de Cécile Brune, Clotilde Bézère, Jennifer Decker et Rebecca Marder, un rôle grave et puissant à la mesure de son grand talent. Bonsoir Suliane Brahim.
Bonsoir.
Quel joli prénom Suliane. Il est breton je crois.
Il est breton, oui.
Et vous avez grandi à Bourges, maison de la culture, André Malraux.
Bien sûr.
De bon augure. Vous y avez vu tout de suite, très jeune, des pièces. Et c'est
ouais.
Ça qui vous a orienté vers le théâtre.
Oui, ça a été très important. Ouais. Je pense que j'avais 15 ans quand j'ai commencé à voir mes premières pièces. La toute première, c'était d'ailleurs une pièce de Bernard-Marie Coltès. Et ça a été... Oui, fondamental dans mon parcours. Je suis d'abord devenue spectatrice avant de devenir actrice et je le suis toujours d'ailleurs, spectatrice fidèle. Voilà, j'aime beaucoup aller au théâtre, beaucoup voir les spectacles. Et la Maison de la Culture de Bourges, ouais, ça a été très important. J'ai vu des spectacles magnifiques dont je me souviens encore.
Oui, et puis cette façon d'aborder le théâtre par l'écriture contemporaine, en même temps que par le classique, bien
ouais.
sûr, mais démarrer avec Coltès, c'est vrai que ça donne tout de suite une envie, peut-être, d'aborder très tôt des textes contemporains.
Ouais, ouais, c'est un choc, l'écriture, quoi. Cette écriture que je découvrais, il y avait des acteurs magnifiques, notamment Hervé Pierre, d'ailleurs, qui jouait dans ce spectacle, que je retrouve à la Comédie Française. Oui, ça, ça a été important. Et je pense d'ailleurs que finalement, après, je faisais du théâtre en option au lycée, Alain Fournier. C'était cette même époque aussi où Patrick Chéreau reprenait la solitude des champs de coton à la manufacture des œillets. Il y avait comme ça, évidemment, Olivier Pie. Et un peu plus tardivement pour moi, j'ai découvert Jean-Luc Lagarce plus tard. Mais ça a fait partie pour moi, oui, j'ai presque comme si ma génération on a commencé à faire du théâtre avec ces nouveaux auteurs, en fait. Et il s'agissait vraiment, voilà, d'écritures singulières, contemporaines. D'ailleurs, donc voilà, des metteurs en scène comme Patrice Chéreau s'en emparaient et nous les faisaient découvrir. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à faire du théâtre à ce moment-là, en fait.
Donc, et pourtant, 2009, c'est la Comédie Française qui vous appelle. Et là, du coup, c'est l'immersion dans le répertoire. Donc, on vous a vu sur scène, alors dans tous les rôles de jeune première. Dernièrement, encore Juliette, sous la direction d'Éric Ruff. Gennaro, bien sûr, un rôle de jeune garçon. Mais il est vrai, Suliane Brahim, que... Alors, on va pas dire votre âge, puisqu'on ne dit jamais l'âge des actrices. Mais vous faites la moitié de votre âge, quand même. Donc, vous faites les jeunes premières. Vous étiez une Juliette tout à fait crédible. Il arrive sans doute un moment dans la vie d'une actrice où on a envie de choses plus graves, plus mûres. Et bizarrement, c'est la télévision qui vous l'a offert, puisque vous avez joué dans une série sur Zone France Blanche. De Zone Blanche, oui. Où vous aviez là un rôle de flic dépressive, oui. Très sombre, solitaire, qui vous offrait peut-être la possibilité de faire vibrer des cordes différentes.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, finalement, ce projet, voilà, là, autour de j'étais dans ma maison, j'attendais que la pluie vienne. Quand je l'ai lu, c'est vrai que j'ai été attirée, j'étais intéressée par ce rôle de l'aîné, pour toutes ces raisons aussi, parce qu'il semblait me ressembler dans ce que je suis dans la vie de tous les jours. Je vais bientôt avoir 40 ans. Donc, voilà, des choses aussi, même si j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer des jeunes premières, il y avait cette chose de l'enfance, j'y suis beaucoup attachée. Et puis, c'est vrai qu'arrive un moment où on a besoin aussi de dire d'autres choses, de le dire autrement. Et c'est vrai que ce rôle-là de l'aîné m'offre cette possibilité. Et c'est... Au même titre que Juliette, c'est un vrai cadeau aussi. C'est une rencontre aussi. Juliette, je l'avais vécu un petit peu comme ça, comme une rencontre avec un rôle. Je pensais pas que ça pouvait arriver, mais là, il s'agissait de ça. Et finalement, avec cette pièce-là et ce rôle de l'aîné, c'est un peu ça aussi.
D'ailleurs, cette pièce, j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, un titre absolument merveilleux qui vous embarque tout de suite dans un autre monde, dans une mélancolie, dans une cruauté aussi. Cette pièce de Jean-Luc Lagarce, c'est l'avant-dernière. On va l'écouter au micro, bien sûr, de Lucien Atoun, qui l'a découvert avec sa femme Micheline. On va l'écouter parler de cette pièce et surtout dire que maintenant, on lui a collé l'étiquette de mort du sida, donc il disait bien que c'était une pièce sur autre chose que sur cette maladie, même si le jeune frère revient pour mourir, c'est surtout une pièce pour 5 femmes.
Je suis né à Héricourt, en Haute-Saône. Voilà, je suis région rurale, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je viens d'une ville de 10 000 habitants. J'ai un ami ouvrier, donc la culture, c'est un luxe et ça ne faisait donc pas partie de ma vie de famille. J'ai un ami ouvrier d'une part, j'ai un milieu plutôt modeste, mais enfin, quand j'étais enfant, très modeste. Bon, après, c'est un peu arrangé, il y a eu une évolution économique, mais et puis je viens aussi d'un milieu protestant huguenot, donc on lisait pas de livres parce que contrairement à ce que croient les bonnes âmes, dans les milieux ouvriers on n'a pas vraiment le temps de lire des livres, puis on en a pas. Mais ensuite j'ai un milieu très protestant, donc le théâtre c'est encore maintenant, je suis quasiment convaincu dans ma famille, ça ou je sais pas ouvrir une maison de passe, ça peut se dire à peu près au même, c'est logique. Donc on se dit, bon, parce qu'un jeune homme revient et qu'il meurt, donc sida, parce que l'auteur a moins de 40 ans, à l'air où, notoirement, on sait qu'il est homosexuel, donc on se dit, à partir de là, donc ça doit être le sida. J'étais dans ma maison, contrairement à ce qu'on croit, à pas faire tant avec ça qu'on croit, c'est pas vrai.
Oui, il le dit lui-même, dans une autre interview, il emploie le mot pavane, pavane pour 5 femmes, effectivement, autour de cette idée de la mort. Parce qu'au fond, ce jeune frère, on ne le voit pas, on sait qu'il est revenu, on sait qu'il va mourir, mais est-ce que c'est la réalité ? Il y a une atmosphère très onirique dans cette pièce. Est-ce que pour vous, vous aviez besoin, Suliane Brahim, vous et vos autres camarades sur la scène, sous la direction de Chloé Dabert, est-ce que vous avez eu le besoin chacune de vous raconter l'histoire de votre personnage, peut-être chacune avec des points de vue différents, comme d'ailleurs dans la pièce, elles expriment chacune des points de vue différents?
Ce que je pourrais dire en tout cas, c'est que quand au moment du travail, lors des répétitions, On était très surprises les unes les autres en travaillant ce texte. Il y avait des émotions comme ça qui jaillissaient et qui n'étaient pas des émotions avec lesquelles on a l'habitude de travailler en tant que comédienne. Il s'agissait d'autres choses, des choses plus intimes, plus à la frontière certainement entre les actrices que nous sommes et les personnes, les femmes que nous sommes. Et finalement, on ne s'est pas raconté tant de choses que ça sur la construction de personnages ou des choses psychologiques. On a travaillé ce texte comme une sorte de partition musicale en respectant ponctuation, les temps. Dans le texte de Jean-Luc Lagarce, c'est très précis. Il y a des choses en italique, il y a des retours à la ligne. Donc on a travaillé vraiment cette partition comme du solfège. Et finalement, en faisant tout ce travail, nous étions traversés par ce poème, par des choses vraiment profondes. Et je pense que ça s'est déposé au fur et à mesure. Et je pense maintenant c'est ce qu'on partage avec le public. Donc il y a des choses presque en dehors du théâtre avec lesquelles on a composé parce qu'on est quand même comédienne. Mais en répétition, on était assez étonnées les unes les autres. Ce texte agit en fait, agissait sur nous. Et je pense que quand on le joue, il agit aussi sur le spectateur. Je pense que si on échange avec plusieurs spectateurs, chacun a vécu son expérience, chacun sera touché par tel moment de la petite, ou de la seconde, ou de la mère, ou de la plus âgée, ou de l'aînée. Il y a quelque chose qui circule comme ça, et selon... Il y a quelque chose de l'intime qui voyage. Et nous, ça a été un voyage vraiment comme ça, dans l'intime, féminin aussi. Je dois quand même dire que... D'ailleurs, on a refusé de répondre à la question « Est-ce que ce frère était revenu ou pas ?» Il est bien sûr question de la mort, mais je pense qu'il était surtout question de l'attente. Et finalement, parfois, moi, je me disais, c'est fou, parce que cette attente, elle est ancestrale. On pense à des femmes de marins, des femmes attendant les hommes pendant la guerre.
On pense à la Belle au bois dormant aussi, qui attend d'être réveillée par le retour du prince.
Jusqu'à des choses qui se rapprochent, par exemple, de moi et de ma génération, de l'attente des femmes, l'attente d'un homme, de l'homme. L'aîné dit, par exemple, toutes ces années que nous avions vécues à attendre et perdues encore à ne rien faire d'autre qu'attendre et ne rien pouvoir obtenir jamais et être sans autre but que celui-là. Et la femme que je suis, voilà, moi ça me parle aussi aujourd'hui, cette attente, attendre même l'aval d'un homme, enfin je veux dire encore aujourd'hui, c'est d'actualité, et puis même attendre un enfant, attendre, les femmes attendent, et encore aujourd'hui. Moi, ça me parle.
Oui, c'est même très étonnant pour ce garçon, Jean-Luc Lagarce, d'avoir su écrire sur l'intimité absolue de la psyché féminine. Ça, c'est très rare chez les auteurs masculins d'avoir pu pénétrer à ce point. Alors, vous parlez de l'attente, mais ce n'est pas une attente résignée. C'est une vraie attente choisie et qui ne manque pas aussi de réflexion sur ce que ça représente de mépris de la part de celui qu'on attend.
Est parti brutalement, a claqué la porte, a insulté son père et son père l'insulta et a claqué la porte. Ne me souviens pas qu'il m'ait embrassé, qu'il en ait pris le temps, qu'il se soit soucié de moi ou d'elle, celle-là, sa mère. Ne me souviens pas, même de sa mère, ne me souviens pas. Et pas plus encore, pas le souvenir que j'en ai, pas plus un mot. Ou un sourire. Il ne nous voit pas. Il ne se soucie pas de nous. Et jamais, ce que nous avons toujours pensé depuis, jamais il ne parut se soucier de nous. Jamais nous n'avons paru avoir de l'importance, un quelconque intérêt pour lui.
Il nous quitte. Il nous laisse. C'est nous qui toujours, là, toutes les cinq, c'est nous toutes qui l'attendrons toutes ces années perdues. Rester bloqué, épuisé, là, mais c'est son père qu'il quitte. C'est leur histoire à tous les deux, leur séparation et la violence de leur séparation. Et nous ne comptions pas, et nous n'avons plus jamais compté. Nous attendions toutes ces années, nous attendions, mais nous ne comptions pas.
Il n'a jamais eu de soucis de nous. Ils n'avaient que faire de nous.
En fait, Suliane Brahim, quand on écoute les voix de ces cinq femmes qui tantôt s'opposent, tantôt s'accordent, racontent une histoire, chacune avec des variations, chacune l'a vécue aussi différemment, c'est vrai qu'il y... ça raconte au fond juste la vie. Parce qu'au-delà de cette attente précise d'un enfant qui devrait revenir ou pas revenir, mort ou vivant, en fait, il parle de ce qui se passe pendant une vie.
Oui, et puis... je crois que ça parle aussi de la famille. Je veux dire, voilà, cette pièce raconte aussi le départ de ce fils, de ce jeune homme, qui quitte la maison, qui s'en va, après une dispute familiale avec le père. On a quelques indices sur cet événement et on sent bien à quel point finalement quelque chose s'est arrêté là aussi, s'est figé là et... On retrouve ça dans beaucoup de familles, finalement, un événement qui fait que quelque chose se brise et finalement, chaque élément de la famille reste bloqué à ce moment-là et essaie de s'en arranger. Souvent dans la pièce, il est question de ça, des arrangements, comment chacun a continué à vivre avec après cet événement particulier. Et ça, c'est assez beau aussi sur la famille. Il y a justement il y a les trois sœurs, avec la plus petite, qui prendra la parole à un moment donné dans la pièce. C'est un moment assez crucial, ça, c'est une vraie bascule dans le spectacle. Il y a la parole de l'aînée. La mère qui dit à la plus âgée, regarde-les, elles sont terrorisées par le sacrifice. On sent que l'aîné a sacrifié beaucoup de choses. Et on sait que dans les familles, la position de l'aîné, c'est particulier. La cadette, c'est particulier. La mère, c'est encore autre chose. Donc ça parle aussi beaucoup de la famille et donc évidemment, oui, de la vie.
Et puis de cette vie à côté. Alors, Suliane Brahim, vous ne venez pas, comme Jean-Luc Lagarce lui-même le racontait tout à l'heure, d'un tout petit village dans la campagne, mais c'est aussi cette vie, peut-être plus datée déjà, mais en dehors des villes. Une maison, d'ailleurs, elle la décrive à l'écart du village. L'aînée raconte au début qu'elle voit la route qui passe, qui s'en va vers la forêt à côté. Il parle aussi de ce qu'il a bien connu, c'est-à-dire le besoin de rupture lorsqu'on part de tout petits endroits comme ça, à l'écart de la vie, au fond.
Oui, et puis, alors moi, je n'ai pas vécu dans un tout petit village, mais j'ai quand même grandi en province, à Bourges. Il y avait plein de petits villages autour. J'avais des amis qui vivaient dans ces villages. Et c'est vrai que finalement, ouais, la pièce parle de ça aussi. Et donc, d'une certaine façon, les pièces ne sont pas toutes autobiographiques, mais il y a toujours une part... autobiographique de la vie de Jean-Luc Lagarce, je pense. Et cette chose, effectivement, de partir de sa province, ça demande... La seconde, d'ailleurs, le dit à la fin de la pièce, ça me demandera de la force. Et c'est pas tant se remettre de la mort de quelqu'un, etc., la question du deuil, il est question aussi, voilà, de à quel point c'est difficile de quitter son village, de quitter sa province. Souvent, surtout si c'est un milieu modeste, on est seul à le faire, on part seul. Et d'ailleurs, souvent, en parlant avec d'autres amis qui ont quitté leur province, en plus, il y a cette chose après qu'une fois qu'on est parti, et par exemple qu'on vit à Paris, il y a une sorte de fantasme pour tous ceux qui sont restés dans le village ou en province. Et comme si c'était acquis que forcément la personne qui est partie est évidemment heureuse, est évidemment a une vie extraordinaire et tout est facile, et alors que parfois c'est
vous plus... parlez de l'histoire de toutes les migrations là.
Oui, c'est plus compliqué que ça en a l'air et c'est plus difficile que ce qu'on pense. Donc à la fois c'est toujours difficile pour aussi de revenir de là d'où on est parti. Parce que c'est pas évident de dire aux autres, bah vous savez, c'est pas si simple non plus, en fait. C'est compliqué aussi de partir, de refaire sa vie ailleurs. Donc c'est vrai que ça parle de ça aussi, et peut-être aussi parce que ce sont des femmes là dans la pièce, donc peut-être que ça demande encore plus de courage et de force à une jeune femme ou une jeune adolescente de partir de sa province, de son village et de réaliser ses rêves. On sent que l'aînée, d'ailleurs, il en a été question, mais voilà, elle n'a pas été au bout de ce projet et que c'est très difficile pour elle de rester dans son village.
if I should leave you. Try to remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain.
Le village là-bas, un ou deux autres villages, plus grands, plus loin. On me regarde marcher sur la route. Je marche exactement comme ils veulent que je marche. J'ai mon pas serré de garce respectable. Mais moi, c'est la zinidrice. Je méprise les paysans. Ce qu'ils répètent, et n'ont pas tort. Et ils me respectent encore, bien obligé, car j'apprends leurs gosses imbéciles des rudiments de rien. Ils me méprisent et me saluent. Je prends l'autocar. Je passe la journée en ville à me choisir des chaussures, ce que je raconte. Et je dors dans une chambre d'hôtel, brin sale, avec un séducteur un peu encombré de moi. Il raconte, il parle de sa femme et de ses enfants. Toujours ils font ça. Il vend des encyclopédies médicales en souscription économique. Parfois, il pleure. C'est dire. Tous les deux ou trois mois, on se recroisera, par hasard, à la grande brasserie du commerce et des voyageurs. On triche un peu, on fera mine de ne s'être jamais vu, puis on recommencera l'amour. Appelons ça comme ça.
Suliane Brahim, on vient de vous entendre. Effectivement, ce rôle de la fille aînée, c'est le rôle, j'allais dire, le plus libre dans une pièce où les cinq femmes sont quand même, en fait, enfermées, tenues par ces liens de la tante et de la famille. Mais elle a expérimenté l'au-dehors et l'en-dedans. Elle a eu une vie, sa sœur lui pose la question, est-ce que tu as eu des hommes? Et elle raconte ce qui est d'une tristesse terrible, mais qui en même temps ouvre aussi sur cette possibilité de s'en aller, de s'enfuir, de réaliser autre chose. C'est vraiment le rôle le plus développé dans cette pièce. Les autres, en fait, sont quasiment des fantômes. Et j'imagine que pour travailler cette pièce et la rendre musicale, c'est-à-dire que les cinq voix se relient, il a fallu aussi écouter beaucoup, s'écouter beaucoup l'une l'autre de manière à ce que ça soit harmonieux. Ça aurait pu être juste une cacophonie de douleurs qui s'expriment. Comment est-ce que vous avez travaillé justement avec votre metteur en scène, Chloé Dabert, que vous connaissez depuis longtemps? Comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'en fait, on vous voit toutes assez statiques, vous bougez peu. Le décor est assez esquissé aussi. En fait, c'est la parole qui était au premier plan.
Oui, on a eu plein d'étapes dans le travail. On a essayé plein de choses. Finalement, à chaque fois qu'on essayait de... Moi, je dis un peu de fanfaronner, d'y mettre du naturalisme ou de créer des situations qui seraient dans une sorte de quotidien, qui amèneraient une sorte de vie en dehors du texte, ça ne fonctionnait pas. Le texte est tellement fort, puis Chloé Dabert travaille comme ça, vraiment le texte devant, le texte toujours, avant toute chose. Et finalement, voilà, on l'a vraiment travaillé comme une partition musicale. Et puis, on s'est rendu compte très vite que c'est cette parole et cette nécessité de la parole de dire, de préciser les choses, de partir dans une pensée, d'avoir le temps de divaguer, de revenir à ce qu'on voulait dire. On essaie de bien le dire, comme si finalement ces êtres-là n'avaient jamais formulé aussi bien les choses ou ça n'avait jamais semblé aussi important.
Oui, et parce donc, que l'écriture de Lagarce, elle est, il faut le dire, elle est circulaire, elle est répétitive, il y a des incises, donc en plus c'est assez compliqué à mémoriser même.
Ça a été très compliqué. Donc tout le travail, ça a été même de d'apprendre le texte et de réussir à le dire sans bien le dire bien sûr, mais à le dire tout court. Et je pense que ça fait partie du processus du travail et de cette écriture, pour avoir échangé avec d'autres personnes qui avaient déjà travaillé Lagarce. Et puis après, il faut accepter aussi d'avoir un grand auteur, une écriture très forte. Et on ne pouvait pas bouger, en fait. Dès qu'on commençait à bouger, alors finalement le personnage de la seconde, qui a un parcours assez particulier. D'ailleurs, vous parliez justement de ce. Il y a une chose à la fois chorale et c'est un peu comme un requiem de Mozart, c'est-à-dire que tout est orchestré. Dans les prises de parole, par exemple, la mère parlera beaucoup au début, puis ne parlera plus. La gamine parlera une fois et dira tout, en une seule fois. C'est un moment très fort dans la pièce. La seconde raconte l'histoire qu'elle a rêvée. Elle fera tout le chemin pour se rendre compte que cette histoire n'aura pas lieu. Le film qu'elle s'est fait ne ressemblera pas du tout à ce qu'elle avait imaginé. Et l'aînée, finalement, d'ailleurs, dans d'autres pièces de Lagarce, souvent, il y a le personnage de Louis, qui est à la fois, évidemment, dans la pièce, et en même temps la figure du narrateur, et finalement, parfois, la figure de Jean-Luc Lagarce. Et là, finalement, il n'y a pas de figure masculine. Mais l'aînée, à un moment donné, on s'est dit, c'est elle qui commence la pièce, qui la finit presque à la fin. Et parfois, on avait l'impression que c'était peut-être ce personnage de Louis, même s'il n'est pas écrit, là, qu'il n'est pas là, comme si l'aîné, ce personnage prenait le relais, en fait, comme si le début était un prologue, et comme si elle était à la fois l'aîné, justement ce que vous disiez aussi, mais à l'intérieur même de la structure de la pièce, à la fois dehors et dedans, comme si peut-être c'est elle qui regarde cette chose qui a déjà eu lieu, ces choses qui ont déjà été dites, ou qu'elle revient longtemps après et elle regarde tout ça d'un petit peu plus loin.
Mais du coup, comme ces personnages n'existent que par la voix, que par le texte, que le décor est très blanc mais voilé, assez fantomatique, en fait c'est une maison rêvée, on ne sait pas trop si elle est comme ça, si elle peut fonctionner comme ça, des escaliers ne mènent nulle part. Et comme les personnages restent assez immobiles pour dire leur texte, en fait, c'est par les vêtements, assez subtilement, qu'elles sont définies les unes les autres. Ces vêtements, ils ont été faits par Marie Larocca. Oui. Et en fait, au début, on s'en rend pas compte parce que les personnages sont habillés comme nous tous. Et puis après, on se rend compte que chaque pièce de vêtement définit. L'aînée, par exemple, c'est la seule qui a des vêtements vraiment de travail. On sent, elle a une veste, des talons, enfin, elle est habillée pour aller à l'extérieur, alors que toutes les autres sont habillées pour rester à l'intérieur.
Ouais. D'ailleurs, Jean-Luc Lagarce, à la fin de la pièce, dit que pour lui, voilà, elles sont toutes les cinq vêtues de noir, foulard dans les cheveux, donc on imagine peut-être une place de village en Corse, enfin une maison, enfin voilà, je sais pas, il y a une sorte d'imagerie comme ça que lui a écrite. Et c'est vrai que nous, après, on avait envie de le... Comme justement le poème était très fort et qu'il y avait quelque chose de figé comme ça, on avait envie de le rapprocher de nous. Fallait que ça reste intemporel, mais qu'il y ait quelque chose qui se rapproche quand même de nous aujourd'hui et maintenant. Et c'est vrai que ce travail des costumes, je trouve assez fin et assez juste. Parce qu'effectivement, il donne quelques informations. Il y a une unité et en même temps, chacune existe indépendamment des autres. Et ça, c'était important. Et c'est vrai que les costumes le traitent bien, ça. Et puis après, il y a quand même tous les parcours sont différents à l'intérieur. Alors, je regarde mes camarades tous les soirs. Et il y a l'identité de chacune, l'identité d'une voix, de ce que cette voix véhicule, de la voix de Rebecca Marder qui a 21 ans, jusqu'à Cécile Brune. Finalement, la voix aussi, avec le texte bien sûr, mais les voix racontent aussi une féminité, une histoire, une singularité. Et c'est vrai que finalement, les interprètes apportent aussi Et c'est le plaisir, je pense, que nous, on a de jouer ce spectacle toutes les cinq ensemble et de s'écouter tous les soirs. Vous parlez justement là tout à l'heure de... On a beaucoup travaillé dans l'écoute et dans l'adresse. Au début, on essayait de respecter plus ou moins cette scène. Elle peut être jouée à deux et puis les autres sont un petit peu derrière. Et puis à un moment donné, on s'est dit, chacune disait, mais je ne peux pas ne pas entendre, je ne peux pas ne pas être là. Parce qu'après, moi, je dis ça, parce qu'après, je fais écho à ça. Et à un moment donné, après, pendant 3 semaines, 4 semaines, on a travaillé toutes les 5 ensemble. Et souvent même, on prenait les mêmes places, toujours. Après, ça a encore un petit peu évolué quand on a été dans le décor. Et puis maintenant, on a cette version finale. Mais ça, c'était très important pour nous, de l'intérieur. Finalement, on traverse ce spectacle, surtout en écoutant les autres.
Et puis, dans cette pièce, donc je le redis, l'avant-dernière de Jean-Luc Lagarce, qui savait donc en l'écrivant qu'il était condamné, il y a toujours de la cruauté, de l'ironie, parfois même on peut rire parce qu'il y a des choses drôles que disent ses filles, et puis de toute façon, à la fin, la vie continuera, même après la mort.
On l'oubliera, tu peux rêver, on l'oubliera toi-même, tu l'oublieras, et celle-là aussi, elles l'oublieront. Nous nous en arrangerons. Vous pourrez résister, ne pas rater les anniversaires, peu à peu entretenir la tombe, laver encore le carrelage de la pièce et ne rien vouloir toucher et ne rien, jamais, ne rien vouloir changer de place, ne rien jeter, ne rien donner. Le musée, votre mausolée campagnard, nous nous en arrangerons. On l'oubliera. L'une fera un enfant. Toi, tu feras un enfant. Tu finiras par ramener un enfant. Tu ris, on en reparle. Tu feras un enfant, mon jeune neveu, un de ces imbéciles qui t'insultent sur la grande place, un de ces imbéciles te fera un enfant. On en reparle. Tu vas nous revenir du bal avec ta robe rouge de travers et tu nous feras un enfant. Et la chambre de l'enfant sera cette chambre-là, la chambre si bien entretenue du jeune frère mort. Un bel après-midi de nettoyage, les fenêtres ouvertes et l'air qui entre, et l'odeur de la lessive sur le sol, et l'odeur de l'encaustique sur les meubles. Je te souviens de ça aussi, l'odeur de l'encaustique, et les dernières traces, le sac marin monté dans la soupente.
Voilà, c'est « J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne » de Jean-Luc Lagarce. C'est au Vieux Colombier jusqu'au 4 mars. On a entendu Suliane Brahim, il y a aussi Cécile Brune, Clotilde Bézère, Jennifer Decker, Rebecca Marder sous la direction de Chloé Dabert. Merci à vous, Suliane Brahim. Merci. Est-ce que vous nous diriez un peu ce que vous avez en projet, puisque je sais qu'à la Comédie Française, il y a toujours quelque chose sur le feu. On vous verra dans quoi bientôt et quand?
Il y a une reprise de Roméo et Juliette en fin de saison, au mois de juin, à la Comédie Française. Et sinon, après, je vais partir hors les murs. Je vais retravailler avec Chloé Dabert, qui monte Iphigénie, la pièce de Jean Racine, au Festival d'Avignon.
Très bien, et ben bonne répétition, bonne pièce.
Merci.
Merci à vous, Suliane Brahim, c'était un plaisir de vous avoir. Merci pour cette pièce, merci pour votre talent. Et
merci
à bientôt
beaucoup,
sur la scène. Au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce samedi, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons dans une semaine, aux environs de 19h20. J'aurai le plaisir de recevoir Jérôme Prieur et Gérard Mordilla pour leur dernière production autour du Saint-Suaire de Turin. Mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Madame Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.